France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 3 mars. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, ultime discussion au sommet de l'État avant de nouvelles annonces. Rien n'est encore officiellement tranché pour tenter de ralentir la progression du Covid. Le préfet du Pas-de-Calais demande lui un confinement pour les 3 prochains week-ends. On voit ça en détail Agnès, après les autres titres.
Les hôpitaux réunionnais sont débordés. Premier transfert de malades vers la métropole dans les heures qui viennent. Pouvoir prendre dans ses bras les plus âgés, c'est ce que réclament familles et professionnels des EHPAD où 80% des résidents sont vaccinés. Nicolas Sarkozy contre-attaque et se dit prêt à saisir la justice européenne. La nouvelle carte des lycées qui affole les parents parisiens. Et puis Nathalie Dessay en 33 CD.
Oui.
Il fallait bien cela pour retracer la carrière de la soprano française.
Et les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
Comment accompagner les mourants, comment consoler les vivants, c'est le cœur du nouveau livre de Delphine Horviller, un récit à la fois intime et universel sur comment penser la mort. Madame le rabbin sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure Léa, on se retrouvera à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Il dialoguera avec vous au standard 01 45 24 7000.
France Inter.
Un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée. Avant donc de nouvelles annonces d'ici la fin de la semaine, le rituel se répète inlassablement, avec sur la table les courbes de contamination et d'hospitalisation. Près de 23 000 nouveaux cas hier, 3 586 malades en réanimation et toujours des disparités régionales avec 20 départements sous très haute surveillance. La concertation avec les élus locaux et les préfets se poursuit, Yael Gauz, et le catalogue des restrictions reste modulable.
Unis dans la diversité, ce pourrait être la devise du gouvernement, tellement l'exécutif veut faire dans la dentelle, résume un conseiller. À chaque bassin de vie, ses propres restrictions, 20 départements sous surveillance, mais dans le nord par exemple, entre le Dunkerquois et l'Avesnois, plus au sud, 5 fois moins touchés, le traitement sera clairement différencié, explique Jean-René Lecerf, président LR du conseil départemental.
Ce qui va nous amener, par exemple, à généraliser le télétravail tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et à ne pas le faire, effectivement, sur le reste du département, et ce qui peut nous amener également au niveau des établissements d'enseignement à être peut-être demain en distanciel sur Dunkerque. On doit être capable effectivement de réagir extrêmement rapidement.
Du sur-mesure donc, Jean Castex n'impose rien pour l'instant et les concertations pourraient se prolonger encore jusqu'à demain matin car les confinements le week-end sont loin de faire l'unanimité. Le maire socialiste de Nancy, Mathieu Klein, l'a fait savoir à son préfet.
Si la situation venait à se dégrader à nouveau, ce n'est pas un confinement le week-end qu'il faudrait alors prononcer, mais un confinement local toute la durée de la semaine, de façon cette fois-ci à nous donner les moyens véritablement de casser la progression de l'épidémie.
À la fin, c'est quand même l'État qui décide et Jean Castex a fait passer le message à l'Assemblée. Aucun allègement ne sera toléré, même là où le virus circule peu.
Et de son côté, le préfet du Pas-de-Calais demande un confinement lors des 3 prochains week-ends. Le Pas-de-Calais, où le taux d'incidence frôle les 400 cas pour 100 000 habitants, soit le double de la moyenne nationale. L'objectif du gouvernement reste d'éviter une saturation des hôpitaux, comme c'est le cas actuellement à La Réunion. 90% des lits de réa sont occupés et l'île doit faire face aux variants sud-africains très contagieux. Pour la première fois, des malades, 4 exactement, vont donc être transférés d'ici la fin de la semaine dans l'Hexagone, malgré la complexité et la pénibilité du transfert. Thibault Lefèvre.
Il s'agit de 4 patients gravement atteints par le virus qui prendront donc un avion pendant plus de 10 heures pour être hospitalisés dans des établissements en Nouvelle-Aquitaine. Une opération inédite et pas simple à organiser selon Martine Ladoucette, la directrice de l'Agence régionale de santé.
Cette opération ne va pas de soi et elle est évidemment des plus éprouvantes. C'est pourquoi elle doit être conçue comme incontournable en cas de besoin absolu, mais aussi comme un ultime recours qu'il nous convient de pouvoir éviter le plus possible.
Et pour l'éviter, l'État promet de renforcer encore les moyens mis à la disposition des établissements de santé de La Réunion, mais aussi de Mayotte. Olivier Véran, le ministre de la Santé, hier à l'Assemblée nationale.
La situation est préoccupante. Elle est même plus que préoccupante à Mayotte. Nous frôlions là-bas non plus la situation sanitaire, mais la situation humanitaire. Sur l'île de La Réunion, nous avons augmenté les capacités de lits de réanimation. Ils étaient initialement de 71 lits. À l'heure à laquelle je vous parle, ce sont 122 lits. et nous continuerons de déployer des lits de réanimation à mesure que ce sera nécessaire.
Sur ces 122 lits de réanimation, 16 seulement sont occupés par des malades réunionnais, tous les autres par des patients évacués de Mayotte, accusés par beaucoup sur place de saturer le système de santé de l'île.
Et l'autre objectif du gouvernement, c'est bien sûr la vaccination. Malgré les réticences des personnels soignants, 34% des médecins seulement sont vaccinés. Nous verrons pourquoi dans le journal de 8 heures. En revanche, dans les EHPAD, 80% des résidents vaccinés, ce qui devrait permettre un assouplissement des règles. Marc Potvin.
Tout part d'un constat résumé par Marc Bourquin, conseiller stratégie à la Fédération hospitalière de France.
La vaccination, elle a quand même pas mal fonctionné. Il faut pouvoir capitaliser là-dessus pour revenir à une vie plus normale.
Une fois que les résidents qui l'ont voulu auront reçu leurs deux doses, la vie normale pour Marc Bourquin, c'est par exemple le retour des sorties, des visites dans les chambres, mais aussi
la possibilité de rétablir le toucher à partir du moment où il y a la vaccination, et il faut pouvoir rétablir des liens humains plus forts et qui permettent finalement de rendre au fond aux personnes âgées le sens de l'existence.
Cet assouplissement se ferait selon la situation sanitaire nationale et locale, en impliquant plus les familles, mais aussi les résidents, insiste le professeur Régis Aubry du comité d'éthique de la Fédération hospitalière de France.
Ça n'est pas parce qu'on est dans un EHPAD, parce qu'on est dans une unité de soins de longue durée, qu'on ne peut plus éprouver, qu'on ne peut plus penser, qu'on ne peut plus décider.
L'équilibre entre limitation du risque sanitaire et restriction des libertés est aussi dans l'esprit du Comité consultatif national d'éthique, organe qui rend des avis pour nourrir le débat public. Selon le professeur Régis Aubry, qui en fait partie, le CCNE est en train de travailler sur cette question.
La pandémie dans le monde, le Nigeria, le Kenya, l'Angola et la République démocratique du Congo ont reçu leur première dose de vaccin grâce au dispositif COVAX. Le Brésil a enregistré hier un triste record avec 1641 morts en 24 heures. Et puis Joe Biden promet lui que tous les adultes américains pourront être vaccinés avant la fin du mois de mai. Et il a également demandé au laboratoire Merck de produire le vaccin développé par son concurrent Johnson & Johnson.
Il est 7h07, la contre-attaque de Nicolas Sarkozy après sa condamnation pour corruption.
L'ancien chef de l'État fait appel de sa condamnation à 3 ans de prison, dont un an ferme. Et il annonce ce matin dans le Figaro être prêt à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour se défendre. Élodie Forêt.
Ce serait pour moi une souffrance que d'avoir à faire condamner mon propre pays, mais j'y suis prêt, prévient Nicolas Sarkozy. En colère, l'ancien président, non, mais j'ai ressenti, dit-il, l'injustice profonde des procédures lancées contre moi depuis 10 ans. Nicolas Sarkozy qui persiste dans sa défense, réfutant la moindre preuve dans ce dossier et accusant le parquet national financier de dissimulation et de mensonge. Quant à son avenir politique, là non plus, l'ex-chef de l'État, fantasme d'une partie de la droite, ne varie pas. Relax ou pas, cela n'a rien changé. J'avais dit que je ne serais pas candidat à la présidentielle et je le maintiens. Pas de candidature donc, mais l'ombre de Nicolas Sarkozy ne se dissipe pas pour autant. Au moment où chacun aura fait valoir ses ambitions légitimes, je dirai qui je soutiens et pourquoi je le fais. En toute transparence, ajoute-t-il, avec ma famille politique, se laissant la possibilité de ne pas adouber le candidat de la droite.
Nicolas Sarkozy qui sera ce soir aux 20h de TF1. La guerre d'Algérie et ses vérités cachées qui empoisonnent toujours les relations entre Alger et Paris. Emmanuel Macron a reconnu hier officiellement que l'armée française avait torturé et assassiné le militant nationaliste Ali Boumendjel. Il y a 64 ans, le chef de l'État l'a annoncé lui-même hier en recevant ses petits-enfants. Un geste d'apaisement recommandé par Benjamin Stora dans son rapport sur la colonisation et la guerre d'Algérie. De nouveaux tirs à balles réelles ce matin en Birmanie. Une vingtaine de manifestants blessés, dont 3 dans un état critique. À la demande de Londres, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra après-demain.
7h09, la réforme de l'accès au lycée à Paris, Agnès, provoque des remous.
La capitale était jusqu'ici divisée en 4 zones. Les collégiens de 3e avaient donc le choix entre 12 et 20 lycées dans leur secteur via le logiciel AffelNet. Mais le rectorat a décidé en cours d'année de changer les règles pour favoriser la mixité sociale. Chaque collège sera désormais relié à 5 lycées proches géographiquement pour éviter la fuite, entre guillemets, des très bons élèves dans les lycées prestigieux plus lointains. Explication Faustine Calmel.
Fini les 4 vastes secteurs dans lesquels les collégiens pouvaient choisir leur lycée. Désormais, les élèves auront accès en priorité à 5 établissements rattachés à leur collège à moins de 25 minutes de trajet. Résultat pour Zélie, qui vit dans le 20e arrondissement et visait un lycée dans le 3e, c'est raté.
Je connais le quartier, il y avait des options qui me plaisaient dans les autres lycées, donc je suis un petit peu déçue. Il y a des inégalités entre les quartiers quand même. Mais je vois vraiment pas l'intérêt jusque-là de ce changement, surtout si tard.
Elle se sent assignée à son quartier, perdue, alors que les vœux doivent être formulés mi-mai. Une pétition lancée par des parents d'élèves demande un moratoire pour cette réforme qui, selon Mohamed Sadli, père d'une collégienne et membre de la fédération FCPE, va à l'encontre de l'objectif de mixité à Paris.
Les difficultés sociales, les difficultés scolaires sont quand même concentrées sur la périphérie de Paris, sur les arrondissements de l'Est. Donc, on va creuser les inégalités. Nous sommes maintenant des collèges de 8 arrondissements exprimés des réserves. Il faut nous montrer aujourd'hui que nos élèves auront un enseignement dans le public qui est à la hauteur demain.
Le rectorat défend lui un système qui ouvrira notamment la porte des bons lycées aux élèves moyens qui vivent à côté. Mais il lui reste à peine 2 mois pour convaincre.
L'Île-de-France où depuis ce matin la circulation différenciée est entrée en vigueur en raison d'un épisode de pollution en particules fines. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler et les vitesses maximales sont réduites de 20 km/h. Et puis 9 communes franciliennes ont pris un arrêté pour lutter contre l'usage des pesticides, leur interdiction ne relevant pas de leurs compétences. Les maires ont rendu obligatoire l'élimination des déchets qui leur sont liés. Parmi ces communes, Lille-Saint-Denis, Malakoff ou encore Nanterre. Enfin, un répertoire impressionnant en 30 ans de carrière à l'opéra. Nathalie Dessay est l'une des plus talentueuses sopranos françaises. Alors pour lui rendre hommage, alors qu'elle se consacre aujourd'hui à d'autres projets, Warner propose une anthologie en 33 CD et 19 DVD, ou une version plus concentrée en 3 CD. Une plongée dans la discographie impressionnante de celle qui a marqué les années 90. Stéphane Capron.
Des contes d'Hoffmann dans la mise en scène de Laurent Pelly, à la flûte enchantée dans celle de Robert Carsen à Aix, tous les grands moments de la carrière de Nathalie Dessay figurent dans cette anthologie. C'est un voyage à travers les grands rôles du répertoire.
C'est des rencontres avec des chefs d'orchestre, avec des orchestres, avec des metteurs en scène, avec des partenaires, avec des rôles. J'ai beaucoup aimé chanter Zerbinette, j'ai beaucoup aimé chanter Traviata, même si c'était pas tout à fait pour ma voix. J'ai beaucoup aimé chanter Lucia avec sa scène de la folie à la fin. Somnambule aussi, pas à cause de l'histoire, mais à cause de la beauté de la musique. J'ai adoré chanter du Bach ou du Handel. Peut-être un regret, c'est que je trouve que j'ai pas fait assez d'opéra baroque.
Nathalie Dessay a fait ses adieux à l'opéra en 2013 pour se consacrer à la chanson et au jazz. Elle fourmille de projets, notamment avec des groupes vocaux, et prépare son retour au théâtre dans une pièce écrite par Marine Diaye, Hilda, qui aborde le thème de l'esclavagisme moderne.
L'occasion donc de revoir bientôt, on l'espère, Nathalie Dessay sur scène.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom en Irak, à quelques jours de la visite du pape. Rencontre avec les rares chrétiens de Mossoul.